With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Salut à tous, je suis Maxime Dupuis.
Salut à tous, je suis Arthur Merle.
Vous avez rendez-vous avec Mercredi Mercato avec casting un peu particulier puisque les titulaires du poste sont soit partis en vacances, soit partis couvrir l'Euro 2022 en Angleterre. Donc on salue bien Cyril Morin, on salue bien Julien Pereira qui doit être au bord de la plage ou sur un transat.
Oui, certainement à se la couler douce, hein, voilà, comme
d'habitude.
Normalement, ça ne change pas grand-chose.
Et puis Martin Mosnier qui reviendra la semaine prochaine. Voilà, lui, il avait complètement disparu des radars. Ouais. On le retrouve. Il a retrouvé la porte d'Eurosport, donc on l'accueillera avec grand plaisir. Et pour l'instant, on va parler du temps présent et des affaires du mercato qui nous occupent cette semaine. Trois sujets, vous en avez l'habitude. Il y aura évidemment les trois sujets. Le Mercacuiz en fin d'émission, un Mercacuiz un peu spécial puisque c'est entre nous. Et alors, je ne sais pas si tu es aussi mauvais joueur que moi.
Je déteste perdre à ce jeu. J'adore ce jeu, je déteste perdre. Bon, on verra. Bon. On va essayer d'être bon déjà et puis on verra qui a le meilleur esprit.
On démarre avec le sommaire et le premier sujet qui nous amènera du côté de Paris Saint-Germain. Et du choix en attaque qui devrait être fait, selon nous, par Luis Campos. Est-ce qu'il faut choisir Ekitike ou Scamacca, ou les deux? C'est la question à laquelle on essaiera de répondre dans la première partie de l'émission.
Ensuite, on va se pencher sur le cas Samuel Umtiti. Umtiti qui était annoncé tout proche du Stade Rennais. Certaines rumeurs disent que la visite médicale a quelque peu refroidi la direction rennaise. Le joueur, lui, a donné son point de vue à ce sujet dans une story Instagram lundi soir en contredisant un petit peu ça. Bon, ça pose quand même une question sur l'avenir d'Umtiti et sur le fait qu'on a l'impression qu'il est vraiment en chute libre.
Ouais, 28 ans, champion du monde il y a 4 ans. Et le troisième sujet, on ira un peu du côté de chez Umtiti puisque c'est au FC Barcelone. Ouais. Et on va se poser la question mais que fait donc le FC Barcelone? Alors, on était parti pour parler beaucoup de Frankie de Jong et du fameux transfert à Manchester qui a du mal à se faire parce que le joueur voudrait que le club catalan lui paye tout ce qu'il lui doit. Et on va aussi se pencher sur l'attaque puisqu'on a appris il y a quelques minutes que Ousmane Dembélé, la prolongation devrait être actée d'ici peu et que Rafinha arrive. Donc on va aussi se poser la question que fait le FC Barcelone. Mais avant toute chose, on va démarrer par les trois infos mercato du jour que tu nous as sélectionnées, Arthur.
Oui, trois infos toutes fraîches. Alors la première nous vient d'Italie, Sky Italia qui nous annonce que le PSG a un plan B en cas d'échec sur la piste Milan Skriniar. Et ce plan B, ce serait Jules Koundé. Koundé qui est associé un petit peu à tout le monde, surtout à Chelsea ces derniers temps. Bon, à voir si Koundé pourrait être vraiment une piste fiable pour le PSG. Toujours en Italie et toujours du côté de Sky Italia, Chelsea est en passe de recruter Khalidou Koulibaly de Naples pour 40 millions d'euros, un salaire de 10 millions d'euros net par an. Voilà, Koulibaly qu'on a beaucoup entendu, pareil, dans beaucoup de rumeurs ces dernières années, va visiblement enfin changer d'air. Et puis, une info officielle, celle de Mohamed Mayo qui rejoint le LOSC en provenance de Clermont, un transfert qui avoisinerait les 14 millions d'euros.
Belle somme pour Clermont.
Ouais, belle vente.
Belle vente. Cette émission est à retrouver évidemment sur toutes les plateformes de podcast, les bonnes, les moyennes, les mauvaises. Et les meilleurs moments de l'émission sont à retrouver sur eurosport.fr. Vous en avez pris l'habitude. On va démarrer donc par le premier sujet. On va aller écouter du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui va bientôt s'envoler pour le Japon pour sa tournée estivale. Une tournée de laquelle seront exclus les joueurs qui vont rentrer dans l'offre. C'est-à-dire que le PSG, cette fois version Galtier-Campos, a décidé de se délester. Mais en attaque, en contrepartie, a envie de se renforcer quelque peu. J'allais dire, il y a trois cibles principales. Non, il y en a deux, parce qu'on a appris hier via le Parisien que Ronaldo avait été proposé au Paris Saint-Germain, qui n'en a pas envie, puisque le Paris Saint-Germain entre dans une nouvelle ère. Et finalement, d'avoir Messi, Mbappé et Neymar, ça peut être largement suffisant. Mais le PSG se pose la question d'une doublure potentielle à Mbappé notamment, ou d'une autre solution en attaque. Alors, il y a deux noms qui ressortent, c'est le jeune Ekitike de Reims et Scamacca, dont on entend parler depuis quelques semaines. La question, elle est simple. Arthur, je vais te lancer là-dessus. Si tu étais Luis Campos ou Galtier, Scamacca, Ekitike ou les deux, qu'est-ce que tu ferais?
Alors, si je prends la situation globale, tous les éléments, j'irais plutôt sur Hugo Ekitike. On va d'abord se pencher sur le sportif. Et Ekitike, un profil très polyvalent. C'est un joueur qui n'a pas beaucoup de matchs professionnels, hein, très peu de matchs de Ligue 1 dans les jambes, mais qui est capable de faire énormément de choses. On l'a vu sur le peu qu'on a eu à voir de lui. Il est capable de venir chercher le ballon, de décrocher, de prendre la profondeur, de faire jouer ses partenaires aussi, d'être assez clinique dans la finition, même si ce n'est pas encore un serial buteur, hein, il est tout jeune. Donc déjà, le côté sportif, moi, je le trouve intéressant dans le schéma que Galtier veut proposer à deux attaquants avec un meneur en soutien. Je pense qu'il pourrait bouger, avoir un volume très intéressant. Et puis ensuite, il y a aussi le côté personnalité. Nos confrères du Parisien parlaient lundi, écrivaient un article à ce sujet-là, hein, de Ekitike, et expliquaient qu'il avait presque des étoiles dans les yeux, en fait, à s'imaginer au PSG. C'est un joueur qui est très motivé à l'idée de rejoindre la capitale, qui, a priori, rêve d'évoluer un petit peu dans l'ombre de Kylian Mbappé, de progresser à ses côtés. Donc je pense que par rapport à ce que nous a dit Nasser El Khelaïfi jusqu'ici, et surtout ce que nous a dit Christophe Galtier sur ce qu'il attend de ses joueurs en termes de mentalité, d'attitude, je pense qu'Ekitike pourrait aussi cocher cette case-là, être un joueur très malléable et façonnable aussi par Christophe Galtier, il sait très bien le faire avec les jeunes. Et puis la dernière chose, c'est le prix. Le prix, on parle plus de... Allez, entre l'offre du PSG présumée serait de 25 plus 5 de bonus, alors que Newcastle était à 30 plus 5 de bonus, si je ne dis pas de bêtises. On va faire une moyenne à 30 millions d'euros, bonus compris. Ça me paraît plus en adéquation avec les qualités du joueur que les prix annoncés pour Scamacca, qui sont plus de l'ordre de 40-50 millions d'euros.
Ouais, c'est ce qu'on entend. A priori, ce serait plus cher pour Scamacca. Et tu as parlé d'Ekitike. Alors, c'est un joueur qu'on n'a pas beaucoup vu encore, évidemment. Mais ça fait partie de ces joueurs-là où vous les regardez 10 minutes, vous dites qu'il y a quelque chose. Voilà, c'est des choses parfois qui ne s'expliquent pas. Ce n'est pas forcément parce qu'il va marquer deux buts d'un coup, mettre un doublé en un quart d'heure. Non, vous voyez que ce gars-là a quelque chose. Et que si je devais définir un plafond, le plafond le plus haut entre Ekitike et Scamacca, je pense que j'irais sur Ekitike, qui évidemment a quelque chose. Tu as parlé du caractère. C'est sur le profil, j'allais dire le profil physique, il se ressemble un peu, parce que c'est deux joueurs très grands qui sont au-dessus d'un mètre 90, mais qui n'ont pas le même jeu. Scamacca va être plus... plus avant-centre, on va dire, dans l'esprit, plus axial. Il s'est joué en remise, de haut but, il frappe de loin. Ça peut être intéressant parfois parce que c'est pas une arme dont le PSG se sert énormément et ça peut être utile. Mais voilà, tu parlais de quelque chose d'important tout à l'heure, c'est le caractère. Et a priori, Scamacca, c'est pas exactement le caractère que Ekitike et que lui, alors il viendrait évidemment dans l'ombre des trois de devant, ça c'est forcé. Mais peut-être que dans la gestion d'un groupe, c'est peut-être plus simple d'avoir un joueur qui va grandir et peut-être dans l'esprit aussi de le faire grandir pour. Le poste Mbappé, parce que le poste Mbappé, il va quand même arriver un jour. Voilà, après, c'est sûr que Ekitike, s'il prend de l'ampleur, aura peut-être plus de mal à être dans l'ombre pendant 3 ans. Mais n'empêche que c'est à prendre en compte. Tu parlais du prix aussi, évidemment, le prix, ça compte. Parce que on s'est posé la question de Ekitike ou Scamacca. On pourrait se dire, mais pourquoi pas les deux? Si on suit la logique de ce que raconte le PSG depuis le début, Galtier veut un groupe plus resserré. Donc, rajouter deux attaquants alors que vous avez encore Messi, Neymar, Mbappé, qui a priori partent avec les faveurs, même si Neymar, on verra à l'usage, et a priori il n'est pas parti aujourd'hui, on verra à l'usage. Mais normalement, a priori, ces trois-là sont devant. Ramener deux joueurs derrière, c'est faire grossir un collectif peut-être un peu trop pour le coup. Et il y a des raisons financières. Alors, moi, je ne crois pas trop à ça parce que on entend tout le temps le PSG doit vendre, le PSG a du déficit, mais n'empêche qu'il y a une enveloppe mercato qui a été donnée, qui est autour de 80 millions ventes, sans les ventes évidemment éventuelles. Pour l'instant, le PSG a dépensé 40 millions pour Vitinha, payable en deux fois. Mais bon, ça fait quand même 40 millions, on va mettre à 20. Skriniar, ça fera autour de 60 millions d'euros, ça ne sera pas cher, ça sera une bonne affaire. 60 millions, donc on arrive quasiment en haut de la somme, moins Areola 12 millions, donc vous avez un peu de marge. Si vous allez chercher Ekitike, vous êtes à peu près à pas loin de 100 millions. Et donc là, il faut vendre. Et pour l'instant, le PSG, il ne vend pas. Alors peut-être qu'il va y arriver parce qu'il a fait son petit loft et les joueurs qui ne devraient pas partir au Japon. Mais n'empêche que se pose la question. Donc prendre les deux, je pense que ça ne serait pas une bonne idée au niveau du groupe et de la masse du groupe et non plus de manière financière. Donc moi, je suis assez d'accord avec toi. Je pencherais plus pour Ekitike parce que le joueur, encore une fois... C'est peut-être pas celui qui apporte le profil le plus différent, parce que Scamacca va jouer plus en surface, devant, dans l'axe, alors qu'Ekitike va avoir un rayonnement qui ressemble plus à un joueur comme Mbappé dans les espaces. Mais n'empêche que sur les promesses et le prix, 25 plus 5, ça me paraît quand même être une très très bonne affaire.
Alors oui, juste sur le côté, si le PSG faisait les deux, dans un monde incroyable où Paris arriverait à vendre Kalimuendo pour un joli prix, parce qu'Arnaud Kalimuendo est toujours ici.
Voilà.
Ils en réclament, je crois, 20 ou 25 millions d'euros. Dans un monde où Icardi part cet été, ce qui est loin d'être évident aussi, parce qu'il faut payer son salaire à l'Argentin, là, il resterait Neymar, Messi, Mbappé pour les trois postes. Ouais. Et là, en l'occurrence, avoir deux recrues offensives, ça ne me semblerait pas fou. Surtout que Scamacca, et tu as commencé à le dire, il apporterait vraiment un profil beaucoup plus tranché d'attaquant de surface, effectivement, même athlétiquement, capable d'être très bon de la tête aussi. Donc, je pense que ce ne serait pas inintéressant quand même d'avoir ces deux profils bien distincts. Après, voilà, ça nous ramène toujours à cette nécessité de vendre. Et là, il y a un cas qui résume la situation, c'est le cas Idrissa Gueye. On a vu que Galatasaray est venu au renseignement avec une première offre de 5 millions d'euros, a priori. Mais Gueye, a priori, n'a pas l'air très pressé de partir. Ouais. Et on veut bien le comprendre parce que dans 6 mois, il aura des clubs beaucoup plus huppés à la fin de son contrat qui viendront le chercher.
Ouais, et puis en fait, moi, je pense que le PSG, je parlais des ventes, aurait intérêt à brader ces joueurs. Pourquoi ? Parce que, évidemment, 5 millions, alors le joueur, il faut qu'il veuille partir, mais ne pas être trop gourmand quand un club veut venir, et si le joueur est à peu près enclin à partir, pour une raison simple, c'est que de toute façon, ils n'arriveront pas à vendre au prix où ils ont acheté les joueurs. Ils ont cassé le marché dans un sens, ils ne peuvent pas espérer que les clubs, on va dire, normaux, avec des budgets un peu plus classiques, aillent payer autant. Et autre chose, c'est simplement, ils économiseraient aussi sur le groupe, c'est-à-dire la tranquillité et la qualité du groupe qui ne serait pas disproportionnée et qui pourrait poser des problèmes de management, et aussi sur les salaires. Parce que quand vous voyez, l'équipe avait fait un sujet sur les salaires de Ligue 1, de mémoire, dans les 20 premiers salaires de Ligue 1, il y en avait quasiment 15 du PSG. Ouais. Donc ça veut dire que les remplaçants aussi, prenez le cas Draxler, si un jour Draxler finalement se décide à vraiment partir, il faut que le PSG le brade, ils feront une économie sur le salaire et ils ne se porteront pas plus mal. Donc ça va être très difficile. La seule manière pour le PSG justement de faire les deux, comme tu dis, et d'espérer entrer dans ses sous, c'est de vendre beaucoup de joueurs en volume. Parce que un joueur par-ci, par-là, voilà. Kalimuendo, t'as dit combien ? 15 millions ?
Je crois qu'ils en demandent 20-25 millions.
Mais ça, c'est pas possible. Enfin, avec tout le respect que j'ai pour lui, quel club aujourd'hui va aller mettre 20-25 millions sur Kalimuendo ?
Club de première ligue, mais à part ça…
Et encore, c'est... voilà. Donc je pense qu'il devrait être un peu plus raisonnable et je pense qu'il se servirait finalement parce que… PSG, en fait, l'argent reste un truc secondaire. On nous fait voir depuis des années qu'ils ont besoin de vendre, ils ne vendent jamais. Et ils sont toujours là, ils ont des déficits, voilà, ça passe toujours. Donc à mon avis, ils se porteront beaucoup mieux sportivement s'ils bradent leurs joueurs, même ceux qui ont été achetés très cher, à des prix qui défiaient à l'époque toute concurrence.
Alors peut-être la dernière chose, c'est qu'il y a le prix de vente. Le PSG doit faire un effort, mais il y a quand même le salaire. Tu l'as parlé, ça, les joueurs doivent aussi accepter de baisser leur salaire. Voilà. Ce qui peut peut-être jouer, aller en faveur du PSG, c'est cette Coupe du Monde qui arrive en milieu de saison. C'est-à-dire qu'il y a certains joueurs, s'ils ne jouent pas un match d'ici la Coupe du Monde, forcément, ça va remettre en question leur présence dans la liste de leur pays. Ça peut peut-être mettre plus de pression que sur des années, des saisons où la grande compétition arrive à l'été et où les joueurs se disent « j'essaye à la rentrée et peut-être qu'en hiver, si vraiment ça va pas ».
Tu citais les joueurs, tu prends les deux Allemands, Kehrer et Draxler. Ils n'ont pas été complètement oubliés de la sélection, ce qui est un miracle, on va se dire les choses. Le jeu vaut peut-être la chandelle de baisser un peu le salaire. Surtout que là, on est quand même sur une lame de fond de baisse des salaires. Regardez Pogba qui revient à la Juve, qui s'assoit quand même sur une bonne partie de son salaire. J'ai envie de dire que si un joueur comme Pogba accepte ça, les autres doivent se mettre aussi au diapason, tout simplement. Et je comprends que c'est sûrement difficile. Mais si on me filait 4 millions d'euros, ou 5 millions, ou 6 millions, je crois que je vivrais bien quand même.
Je pense aussi, oui.
On va passer au deuxième sujet ?
Oui.
On a choisi Ekitike, et les deux s'y vendent
bien,
pour faire ça. On va passer au deuxième sujet. On va parler du FC Barcelone, en filigrane, et surtout de Samuel Umtiti, qui, on a bien cru qu'il allait trouver un point de chute, qu'il allait signer à Rennes, et puis, ça ne s'est pas fait. Alors, il y a deux versions qui s'opposent. La version qui dit que la visite médicale n'aurait pas fonctionné, ce qui serait malheureusement pas forcément une surprise. Et le joueur qui, lui, a publié sur Instagram, je vous lis son post, « Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Elle met plus de temps, mais finit toujours par arriver. » Ça, j'ai l'impression qu'un footballeur sur deux publie.
On a vu Boubacar Camara récemment sa signature à Aston Villa.
Il y a toujours ça, donc là, on aura bien la vérité. Mais malheureusement, le constat, pour moi, il est là. C'est que Samuel Umtiti a 28 ans. Samuel Umtiti aurait dû incarner l'avenir du football français, la charnière et même le présent champion du monde en 2018. La charnière, elle était trouvée. C'était Varane, Umtiti. Ça allait durer des plombes. Malheureusement, il a fait le choix que je peux comprendre, c'est-à-dire avoir la Coupe du Monde, de laissé son genou un peu en jachère, ne pas se faire opérer pour jouer le mondial. Les faits lui ont donné raison, et peut-être, je vais dire, pour l'éternité d'une certaine manière, mais il a mis en péril la suite de sa carrière. Et puis 4 ans, c'est terrible, et j'ai envie de te donner un seul chiffre avant de te passer la main. Il a joué un match la saison dernière.
Un match la saison dernière, 50 depuis le titre mondial avec l'équipe de France. Donc on est sur une moyenne de 12,5 matchs pour être précis par saison depuis la Coupe du Monde 2018. Ça vous résume un petit peu l'ampleur du problème. On le sait, il y a eu toutes ces blessures, là, surtout celle au genou hein, qui a entraîné ensuite d'autres, bien sûr. La saison dernière, je crois que c'était une fracture de l'orteil. Alors pour le coup, c'était pas de chance, c'était pas une rechute. Mais quoi qu'il en soit, Umtiti ne joue plus. Umtiti n'a plus le quotidien d'un joueur de très haut niveau, d'un joueur professionnel. Et la problématique qui se pose pour lui cet été, je trouve qu'elle a été très bien résumée par une sortie de Bruno Genesio récemment, après un match amical du Stade Rennais, où un journaliste en bord de terrain allait le voir pour lui poser la question sur Umtiti. Et Genesio avait l'air un peu gêné, parce qu'il disait « Moi, j'adore ce joueur. Je l'ai eu au téléphone. Il m'a plutôt rassuré personnellement. » Mais il a fait comprendre, sans le dire directement, que derrière lui, il y a aussi une direction. Il y a des gens qui vont payer son salaire, il y a un directeur sportif. Et que tout le monde n'allait pas dans le même sens sur le cas Umtiti. Et cette question-là, elle va se poser dans n'importe quel club. Mmh. Et le problème pour Umtiti, c'est qu'on dit n'importe quel club, mais il n'y a pas beaucoup de clubs qui vont aller taper à la porte. Il y a Girona, je crois, qui s'est penché sur lui. Mais ça vous dit l'ampleur, le calibre des clubs qui s'intéressent à lui aujourd'hui. Si même le Stade Rennais aujourd'hui ne veut plus accueillir Samuel Umtiti, il y a vraiment des questions à se poser pour la suite.
Ouais, et comme tu l'as dit, Genesio, on ne peut pas le taxer d'être anti-lyonnais, de ne pas avoir envie de ramener un joueur comme ça dans son effectif. Prenez l'OL qui a ramené cet été, souvenez-vous, Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso. Umtiti, la question ne se pose pas. Voilà, alors derrière, il n'y a peut-être pas les mêmes besoins, parce qu'il y a des jeunes qui arrivent, mais n'empêche que, a priori, si le joueur était en forme, il n'y aurait pas de raison de ne pas au moins l'imaginer. Or, personne ne l'imagine, voilà, tout simplement. On connaîtra peut-être la vérité un jour, mais c'est vrai qu'on peut imaginer que des clubs soient réticents à l'intégrer, alors que depuis 4 ans, sa carrière est entre parenthèses. Un match l'année dernière, 50, tu l'as dit, depuis la Coupe du Monde. C'est pas de se demander s'il est encore footballeur, évidemment qu'il est encore footballeur, mais il a de gros pépins physiques. Moi, je pense que la solution, elle passe. Alors, je ne sais pas aussi ce qui était réclamé en termes d'émoluments, voilà.
Il a drastiquement baissé son salaire quand le Barça l'avait prolongé pour qu'il baisse son salaire.
Pour baisser le salaire.
Oui, exactement.
Mais je pense que la seule garantie, ça va être de réduire le salaire pour espérer se relancer dans un club moyen. Là, Rennes, on était sur du moyen plus, donc on était sur même un club qui joue sur les hauteurs du championnat de France, ça aurait été parfait. Moi, ce que je retiens, c'est que c'est assez triste parce que plus ça va, moins ça va aller. Il est encore jeune, il a 28 ans, mais voilà, depuis qu'il a 24 ans, sa carrière est entre parenthèses. Imaginez ce que c'est, imaginez, vous revenez à la finale de la Coupe du Monde, et vous imaginez que pendant 4 ans, il n'a quasiment pas existé. Et c'est assez dur, même humainement pour lui, voilà, donc la solution, elle va passer par une relance, par un club de plus petit calibre que Rennes, qui acceptera de prendre le risque. Alors, un risque qui sera évidemment mesuré en millions d'euros, mais sûrement bas, même en centaines de milliers d'euros pour prendre le risque. Et en espérant qu'il puisse reprendre le fil de sa carrière, mais c'est compliqué parce que des visites médicales qui ne se passent pas bien, il n'y en a pas des masses quand même.
Ouais, et puis derrière, alors, est-ce qu'on aura un jour le fin mot de l'histoire? C'est même pas sûr, mais il y a le poids de la rumeur quand même. Ouais, elle est là,
exactement.
Cette rumeur, et je pense que tous les clubs qui s'intéressent à Umtiti vont avoir ça dans un coin de leur tête et ça peut coûter très cher à Umtiti. Donc là, je te rejoins complètement. À moins de baisser drastiquement son salaire, il va avoir vraiment du mal à trouver un club cet été, un club qui a un minimum d'ambition. Ce qui est terrible pour Umtiti, on parlait de sa prolongation tout à l'heure. À ce moment-là, il avait prolongé pour lisser son salaire parce que ça permettait de valider l'arrivée de Ferran Torres. Mmh. Vous vous rendez compte quand même qu'en 2018, avant la Coupe du Monde, Umtiti il est évalué à 100 millions d'euros par le CIES. C'est le joueur à l'époque, le défenseur central le plus cher sur le marché. Mmh. Et un peu plus de 2 ans plus tard, on lui dit « baisse ton salaire s'il te plaît pour faire signer un autre joueur ». Enfin, c'est quand même c'est terrible pour lui. Quoi.
Il doit y avoir une malédiction à jouer à côté de Varane en équipe nationale. Se souvenez-vous, Sacco qui avait été victime, j'ai bien victime aujourd'hui, d'un contrôle antidopage positif et finalement a été blanchi, ce qui lui a fait rater l'Euro 2016 et sans doute derrière la Coupe du Monde. Umtiti, on pensait que c'était installé, c'était réglé, c'était parfait. Le but en demi-finale de la Coupe du Monde, la victoire en Coupe du Monde. Et puis derrière ça, et puis depuis, finalement, il n'y a personne qui a vraiment pris la main. Donc,
mais j'ai même. Est-ce qu'Eliakim Mangala a joué à côté de Varane à l'époque? Parce que derrière
il a joué à côté de Varane. Il faudrait faire la liste des joueurs qui ont joué à côté de Varane et qui ne s'en sont pas sortis. Mais c'est, voilà, c'est triste parce qu'encore une fois, c'est même humainement. C'est-à-dire que là, on se dit que c'est le football français et Samuel Umtiti passe à côté d'une carrière qui pourrait être encore plus belle et pas s'arrêter, si tant est que ce soit un arrêt, à un titre de champion du monde.
C'est vrai qu'humainement, on a beaucoup d'affection pour lui. Et puis, je me rappelle d'une interview aussi dans le Canada Football Club en octobre 2020, si je ne dis pas de bêtises. Interview dans laquelle il dit qu'il se sent très bien physiquement parce qu'il avait changé complètement de régime alimentaire pour devenir vegan. Et il se sentait a priori très bien. On sentait Umtiti qui, en plus, je crois, rejouait un petit peu des matchs à l'époque, était un petit peu sur la pente ascendante. Et puis derrière, ça a été de nouveau la chute libre. Donc, c'est vrai qu'humainement, au-delà même du foot, c'est assez dur à voir cette descente aux enfers au final pour Umtiti.
Alors la descente aux enfers, elle est aussi au FC Barcelone. Alors bon, ils ont un peu limité, on va dire, la descente dernièrement. Mais c'est un club qui ne va pas très très bien financièrement. On ne va pas revenir sur les années Bartomeu, sur cette politique dispendieuse, surréaliste et des comptes qui montraient que la masse salariale excédait le budget. Si ça, alors je sais que je l'ai répété 10 fois dans le FC Stream Team. Mais moi, si j'étais le comptable du FC Barcelone et que je voyais ça, je pense que je dormirais très 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 mal. A priori, ça n'empêchait pas de dormir Bartomeu. Laporta est arrivé, il a essayé de changer les choses. Il récupère un navire qui sombre. Dernièrement, il a vendu 25% des droits TV du club sur les 25 prochaines années. La société commerciale est aussi cédée, je crois, à 49%, il me semble. Donc, ce qui veut dire que le FC Barcelone essaie de trouver du fric à court terme en bradant l'avenir, mais parce qu'il n'a pas le choix. C'est terrible. Et là, une des conséquences de tout ça, c'est Frankie de Jong qui, on va résumer très simplement la situation, qui devrait partir à Manchester United autour de 85 millions d'euros, ce qui ferait beaucoup de bien au FC Barcelone. Mais le joueur, lui, dit « Bah non, moi, je ne veux pas partir parce que le FC Barcelone me doit de l'argent. » Alors, pourquoi, vous allez me dire, il doit de l'argent? Parce que le joueur avait accepté de lisser son salaire pendant la période du Covid pour aider son club, comme d'autres ont fait au moment des prolongations successives. Et le truc, c'est qu'il dit « Bah oui, mais si je pars maintenant, ce que j'ai accepté de lisser, je ne vais pas le récupérer. » Alors, j'ai envie de lui dire « Tant pis pour toi, t'as signé. » Tu avais un salaire évolutif, tu t'en vas sans ça. Mais n'empêche qu'il y a un bras de fer et une situation bizarre dans laquelle le FC Barcelone est plongé. Et ce n'est pas la seule.
Non, ce n'est pas la seule. Et juste pour compléter sur Frankie de Jong, moi, il y a un chiffre qui m'a choqué en me renseignant un petit peu dans la presse espagnole. S'il va au bout de son contrat à Barcelone, il touche 90 millions d'euros, je crois, de salaire avec les primes, etc.
Ah oui, j'ai même poussé moi jusqu'à 100.
Dans des fourchettes assez élevées qui seraient, quoi qu'il en soit, plus chères que ce que le FC Barcelone récupérait en cas de vente. Donc c'est absolument hallucinant et en fait c'est un dossier qui est très compliqué à lire parce que De Jong, alors il y a le côté financier, mais j'ai aussi l'impression qu'en tant que joueur, lui il aimerait poursuivre l'aventure au Barça. Mais bon, le Barça fait venir Franck Caissier libre pour venir ajouter un peu de concurrence au milieu de terrain. Alors en l'occurrence, c'est pas forcément une mauvaise idée, c'est même une très bonne idée de faire signer Franck Caissier, mais ça rajoute, il y a quand même beaucoup de monde au milieu de terrain. Et c'est un mercato du côté du Barça qui est globalement illisible. Là, alors on vous parle, le Barça vient d'officialiser le recrutement, enfin l'accord avec Leeds pour l'arrivée de Rafinha pour 57-58 millions d'euros et des bonus, en gros ça montera à 65 millions d'euros. À côté de ça, Ousmane Dembélé, on l'a dit en début d'émission, va prolonger son contrat. On se retrouve dans le secteur offensif, je vais essayer d'être complet sur la liste avec Aubameyang, Depay, Ansu Fati, Ferran Torres, la rumeur Lewandowski, Dembélé, Rafinha, je crois qu'il m'en manque un, mais bon bref, ça fait énormément de monde, et surtout pour un club qui semblait ne plus avoir d'argent, 65 millions d'euros pour un joueur qui, sur le profil, quand vous venez de prolonger Dembélé, n'est pas indispensable, c'est complètement incohérent.
Alors, Dembélé, a priori, ils ont un peu baissé le salaire. Alors, ils n'ont pas baissé le salaire, mais ce serait à peu près l'équivalent avec des primes, voilà, en fonction. Mais n'empêche que voilà, c'est pas une économie. Oui, mais tout ça, c'est illisible. Et l'impression que j'ai avec le FC Barcelone, c'est que c'est une fuite en avant continue. Voilà. Là, est-ce que sportivement, ils ont forcément besoin de se libérer de Frankie de Jong et l'envie de le faire? En fait, j'en sais rien. Mais simplement, c'est que je parlais au début de la cession de 25% des droits TV, la cession d'une partie de la société commerciale, c'est que le FC Barcelone a besoin d'argent. Donc en gros, tu l'as dit tout à l'heure, il peut, s'il va jusqu'au bout, avec un salaire évolutif touché jusqu'à 90 millions d'euros de la part du club, bah là ils se disent, oui, mais là on va le vendre pour 80, 85, donc là on ne se pose pas la question. Voilà, tout simplement, le FC Barcelone, j'ai envie de dire, aujourd'hui est obligé de faire ce que ferait une entreprise normale quand elle a des dettes, voilà, ou un déficit, c'est-à-dire qu'il faut brader. Maintenant, comme tu dis, oui, c'est vrai que c'est assez étonnant la politique qui est en train de être mise en place au niveau offensif, parce que là, oui, ils vont jouer à 5, 6 devant. Alors, on sait que Depay, a priori,
plutôt sur le départ.
Plutôt sur le départ, mais le joueur n'a pas forcément envie de partir. Comme,
ouais.
Et puis il a raison, après tout.
Bien sûr.
C'est-à-dire, il est au Barça, il avait envie d'y aller, ça s'est correctement
plutôt
passé.
Plutôt performant, ouais, ouais.
Voilà. Donc voilà, on est sur une situation qui est quand même très très particulière. Et en fait, moi j'ai du mal à être optimiste pour le FC Barcelone parce que je ne vois vraiment pas, hormis si demain, il y avait une génération formidable. Alors, il y a des jeunes, Pedri, Gavi, tout ça, de la Masia qui venait remplacer tout ça. Le FC Barcelone reste quand même dans cette politique dispendieuse à essayer de récupérer tout ce qui touche et à espérer garder son standing d'avant. Et son standing d'avant, pour moi, c'est justement Lewandowski. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est de la stature très au-dessus. Ils ont envie de le faire venir. Il lui reste un an de contrat. Ils veulent le faire venir maintenant. Ça coûte très cher. Et ils se persuadent qu'ils peuvent le faire. Or, c'est pas possible. Et ça rend la situation complètement malaisée. Et Frankie de Jong est vraiment le point d'achoppement de tout ça avec cette histoire de salaire qu'il compte toucher du club.
Et c'est marrant parce que le début de mercato du Barça paraissait plutôt cohérent. J'ai parlé de Kessié tout à l'heure. On était plutôt sur une politique de recrutement de joueurs libres. Christensen, plutôt une bonne idée s'il ne se blesse pas. Kessié, on l'a dit. À la limite, je veux bien entendre la piste Lewandowski. Pour 40 millions, vous recrutez un attaquant de top niveau. Si c'est votre seule grosse dépense du mercato avec des joueurs libres, si vous arrivez à vendre derrière, pour moi, ça fait un tout qui est très cohérent. Mais alors là, le double dossier Rafinha Dembélé, pour moi, il est venu nous flouter tout ça. Et en fait, on a l'impression que le Barça est condamné à s'enfermer dans ce cercle vicieux parce que De Jong va partir. Alors, il y a quelques jeunes, il y a Kessié qui est arrivé, mais il va peut-être falloir le remplacer. Donc, comment ils vont le remplacer? À quel prix? Il y a d'autres cas qui vont poser problème, comme par exemple Miralem Pjanic, qui va être très difficile à faire partir avec un très gros salaire. Donc le Barça n'a pas fini, je pense, de nous surprendre, et pas forcément dans le bon sens du terme.
Et là, on va savoir si Xavi est vraiment, 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 vraiment très, 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 très bon pour mettre ce puzzle en forme. On a fini avec le FC Barcelone. Je crois que c'est l'heure du Mercacuiz.
Et pour cette séquence, on accueille Quentin Bourrion-Guichard. Salut Quentin.
Salut messieurs, ravi de vous retrouver, ravi de vous accueillir, surtout pour ce nouveau duel du Mercacuiz, un duel inédit. Maxime, tu avais un petit peu goûté au Mercacuiz lors des précédentes nuits du Mercato.
Avec succès, il faut le dire.
Avec succès, j'ai pas ce souvenir-là, mais avec succès, peut-être. Arthur, c'est une première.
Écoute, les mains sont un peu moites, mais j'ai pratiqué l'exercice entre amis depuis la tendre enfance.
Et j'avais d'autant plus de mérite que dans la salle ce soir-là, il y a quelqu'un qui trichait.
C'est pas beau, les dossiers ressortent, on ne citera pas, bien sûr.
Bon, voilà, tu vas nous... Alors, c'est pas non plus la théorie de la relativité, mais rappelle-nous les règles.
Les règles, Maxime, sont très simples. Je vais vous énumérer la carrière d'un joueur, en racontant un petit peu son parcours. Le premier de vous deux qui découvre l'identité de ce joueur remporte un point dans ce Mercacuiz, beaucoup d'enjeux bien sûr.
C'est original.
C'est un format qui a fait ses preuves, Maxime. Oui.
Alors est-ce que je peux me permettre, parce que moi d'habitude je ne suis pas là, et quelque chose qui me chagrine un peu sur les règles.
D'accord.
C'est-à-dire que les concurrents peuvent donner un nom avant que tu aies donné le premier indice.
C'est la nouveauté de cette saison, ouais, effectivement. C'est instauré par Cyril et Julien.
Alors,
j'aime beaucoup
Cyril et Julien, mais je trouve que c'est stupide.
D'accord.
Parce que, en gros, si je te donne un nom, je flingue tout le truc.
Tout à fait.
Par le hasard, absolu.
Absolument. Et ça va être tout de suite d'ailleurs.
Ok.
Vous avez réfléchi à un nom, messieurs ?
C'est parti.
Bon. Qui veut commencer ?
J'hésite entre.
Hein ?
Voilà.
Entre... Ce sont des joueurs en activité, bien sûr.
Ah !
Voilà, toujours.
Écoute, c'est assez compliqué. Je cherche un mec qui aurait fait beaucoup de clubs, parce qu'évidemment. Je me doute bien pour que ça dure.
Bien sûr.
Il faut qu'il y ait beaucoup de clubs. Je vais te proposer. J'aurais bien dit Xavier Gravelaine, mais il n'est plus en activité.
Bon, on le salue.
On le salue,
bien sûr.
Écoute, je ne sais pas trop. Adil Rami, allez.
C'est pas Adil Rami, non.
Ah mince, pourtant, c'est pas passé loin.
C'est pas passé loin, ouais.
Alors, moi, j'ai étudié un petit peu
les
candidats choisis jusqu'ici. Je vois que tu n'es pas encore allé du côté de la Bundesliga.
D'accord.
Sébastien Haller, à l'époque, était encore à l'Ajax.
Tout à fait.
Je
tout
pars donc sur un Thorgan Hazard.
Oh, audacieux.
Monsieur connaisseur.
Ah oui, audacieux.
Parce qu'il part de Lens, ensuite l'Allemagne et tout, c'était pas forcément évident.
C'est pas du tout ça.
D'accord, très bien.
C'est pas du tout ça.
Pourtant, avec les indices que tu nous avais donnés...
Est-ce que j'ai vu sur l'écran, tout à l'heure.
Alors, vous êtes prêts, messieurs, là, place aux choses sérieuses. On a assez rigolé. Maintenant, c'est votre crédibilité de consultant, de journaliste qui est en jeu.
J'ai peur que...
Vous êtes prêts?
Je la mets pas dans la balance, quand même. Hein.
C'est parti. Je commence le football à Tournefeuille. Je rejoins à l'âge de 5 ans l'AS Hersoise, club où mon père, Claude, est éducateur. Droitier de nature, mon père m'oblige très tôt à utiliser mon pied gauche pour me mettre dans les meilleures dispositions. Jusqu'à l'âge de 11 ans, je porte les couleurs de ce club. Puis je rejoins la JS Cugno et le sport-études de Muret pendant une saison, avant de signer pour l'AS Tournefeuille en même temps que j'intègre le centre de la Ligue de Midi-Pyrénées de football à Castelmauroux. Repéré par plusieurs clubs de l'élite, Auxerre, Bordeaux, Toulouse, je choisis de rejoindre l'AS Cannes et son centre de formation alors que le club est rétrogradé en national. À Cannes, j'effectue ma formation...
Gaël Clichy.
Non.
Gaël Clichy, c'est la bonne réponse, Maxime.
Crucifié.
Crucifié. Alors là, voilà, on n'était plus dans la blague.
Non, mais quand le jeu démarre, voilà. Voilà. Alors, j'ai appris quelque chose qui était droitier au départ. Déjà, le fait de remettre vers les gauchers, déjà, tu dois être à 10% de joueurs qui restent. Ouais, ouais. Donc, j'ai viré 90% des joueurs que je connaissais. Cannes, Clichy, après c'était Arsenal. Donc,
bien sûr. Voilà. Alors, il n'est pas passé par Clichy, hein, c'est juste Gaël Clichy, bien voilà. sûr. On a perdu la connexion avec Arthur, par contre.
Bah, je reviendrai jouer peut-être la semaine prochaine, mais juste plaisir. Pour faire le jeu peut-être.
Mais voilà. Avec plaisir.
Juste pour écoute. Se faire plaisir quoi.
Bon bah voilà, 1-0.
On s'est bien marré en tout cas.
C'est réglé.
C'est bien marré. Pas mentir, c'est le moment que j'attendais le plus dans l'émission depuis qu'on m'a booké sur une pige mercredi mercato.
C'est vrai.
Je suis très déçu.
Non mais t'en auras d'autres de toute façon.
Oui, on en aura d'autres.
Et puis de toute façon après.
Ah mais c'est Martin de toute façon.
Ouais, tu vas rencontrer des moins forts.
C'est tranquille alors. Tu peux dormir sur tes deux oreilles. Bon bah bien joué Maxime.
Ouais, je suis obligé de m'incliner.
Eh ben merci, je peux partir en vacances tranquille, c'est le principal, je ne vais pas ruminer ça pendant de longues semaines. On vous remercie de nous avoir suivis, l'émission est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes, les bonnes, les moyennes et les mauvaises, comme d'habitude, le podcast, toutes les semaines. Les vidéos, c'est sur eurosport.fr, on vous dit quoi? On vous dit, enfin, pas la semaine prochaine à mon concernant, mais vous retrouverez mercredi Mercato, mercredi prochain, avec Arthur et Martin. Salut!
À très vite, salut!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.